Bonjour à tous. Ce matin, j'ai pris un texte et puis un thème qui m'a été inspiré au lever lundi, lorsque, étant en train de récupérer de la longue veille que nous avions passée, nous sommes couchés un peu tard du fait du 31 décembre, eh bien, le matin, j'étais bien au chaud sous la couette et tout à coup, j'ai entendu une tempête à l'extérieur, on parlait tout à l'heure, et ça soufflait. Et j'étais inquiet puisque ma femme devait prendre la voiture pour traverser la France quelques heures après. Je dis, je ne vais pas la laisser partir. Si ça souffle comme ça, je suis allé à la fenêtre par curiosité, tellement ça soufflait fort à 9h du matin. Et j'ai vu des poubelles qui volaient dans la rue, quelques mobiliers de jardin qui étaient encore dehors, qui étaient en train de voyager dans le jardin. Et j'étais impressionné par ce vent qui soufflait. Et le voisin avec lequel j'ai un mur mitoyen a une palissade en bois qui, à chaque tempête, saute. Et donc, patiemment, il l'a reconstruit. Et puis, à la tempête suivante, elle saute à nouveau. Donc, c'est pour avertir Jacqueline et Daniel que... le temps breton est quelquefois plus capricieux que celui qu'on peut avoir du côté d'Hermont. Préparez-vous. Le vent qui souffle. Et en regardant ce vent qui souffle, je repensais à ces textes qui parlent de la puissance du vent qui est assimilée dans l'Écriture à la puissance de l'Esprit, à la liberté de l'Esprit. Rouar, le vent de Dieu, l'Esprit de Dieu. Et ce matin, j'aimerais parler de ce vent qui peut souffler de manière encore plus impétueuse, encore plus puissante dans nos vies personnelles comme dans la vie de l'Église et dans ce monde, encore plus que toutes les tempêtes dont nous avons l'impression qu'elles augmentent au fur et à mesure des années. Alors, est-ce qu'il va y avoir un dérèglement spirituel de ce monde ? Comme il peut y avoir un dérèglement climatique. Est-ce que la tempête de l'esprit peut, aujourd'hui et pour ces temps qui viennent, être toujours plus d'actualité ? Dans son livre, dans le livre en tout cas qui lui est attribué, Ézéchiel au chapitre 37 et au verset 9, dit ceci. Dieu lui parle et dit « Prophétise et parle à l'esprit ». Prophétise, fils de l'homme, tu diras à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'ils revivent. J'aime beaucoup ce verset parce qu'il évoque quelque chose que nous faisons peu dans nos vies personnelles, me semble-t-il, et dans l'Église, c'est de parler à l'Esprit. Or, nous parlons au Père. Parce qu'il est tellement bon de pouvoir dire, comme la prière qui nous a été laissée par Jésus, notre Père. Avoir ce sentiment de filiation nouveau grâce à Jésus-Christ. Et quand je dis grâce, c'est dans tout le sens du terme. Je suis fils d'un Père qui veut se révéler à moi. Et puis nous prions le Seigneur Jésus. Parfois, nous ne savons pas très bien si nous prions le Père ou si nous prions le Seigneur. Mais en tout cas, Jésus, nous le prions en disant, Seigneur Jésus, sois celui qui vient dans ma vie, sois celui qui est honoré à cause de ton sacrifice, de ce que tu as fait pour moi. Mais là, ce verset, eh bien, Dieu parle au prophète et lui dit, prophétise et parle à l'Esprit. Parle à l'Esprit. Est-ce que nous parlons à l'Esprit ? Est-ce que nous prions l'Esprit Saint ? D'agir, de venir, d'accomplir la volonté de Dieu, d'accomplir l'œuvre de révélation qui est propre à l'Esprit Saint dans nos vies. Tu diras à l'Esprit. On peut parler, dire à l'Esprit Saint, ainsi parle le Seigneur, Esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'ils revivent. Et j'ai envie de dire, ça pourrait être la prière que nous fassions, que nous faisions pour ce monde, pour l'Église. Souffle sur ses morts et qu'ils revivent. Je suis même certain qu'il y a dans nos vies des choses qui sont mortes, des choses qui ne vivent pas encore et que Dieu veut rendre vivantes. Il y a des espérances en nous qui ne sont pas encore germées. Fais venir l'Esprit afin que ce qui est mort revive. Il me semble que dans l'Église, nous ne sommes pas peut-être aujourd'hui autant centrés sur l'œuvre de l'Esprit-Saint que nous devrions peut-être l'être. Dans beaucoup de réveils qui ont traversé l'histoire, on a relaté qu'à l'image de la Pentecôte, ces réveils étaient souvent précédés d'un souffle violent. Parfois, ce souffle était accompagné de tremblements de terre à l'image de ce qui s'est passé dans le livre des Actes au moment de la naissance de l'Église. Lorsque les disciples se sont mis à prier, le lieu où ils étaient rassemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Le lieu où ils étaient trembla. Dans les divers témoignages qui nous ont été laissés, ce phénomène biblique est souvent présent. La puissance de l'Esprit-Saint qui souffle aussi puissamment que les tempêtes sur les rivages de Bretagne. Le réveil amené par la Pentecôte a été précédé d'un vent violent. Et je crois que c'est là une manifestation de la présence et de la puissance de Dieu. Le souffle est le signe que la vie de Dieu est présente. Le souffle. Le vent. Quand Dieu créa l'homme, il insuffla dans son corps le souffle divin afin que ce corps devienne vivant. Le Saint-Esprit n'est jamais que cette reproduction spirituelle du souffle divin qui vient animer les êtres que nous sommes et nous rendre vivants. Après ces paroles, est-il écrit dans l'évangile de Jean au chapitre 20 ? Avant que Jésus se sépare de ses disciples, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. » Recevez le Saint-Esprit. Savez-vous que nous sommes une église pentecôtiste, charismatique, vivant les charismes? On en a eu une expression tout à l'heure, on a entendu des parler en langue, voire des chants en langue. Nous sommes une église qui avons conscience d'avoir reçu le Saint-Esprit. Est-ce que nous le vivons pleinement? Il y a peut-être encore du champ, des champs à défricher, des expériences à vivre, une liberté à vivre. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 17, « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Alléluia! Est-ce que parfois nous n'avons pas le sentiment que l'Église est encore un peu enfermée dans un carcan bien limité, où on n'a pas trop la liberté de vivre pleinement ce que le Saint-Esprit voudrait nous voir vivre? Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Viens, Esprit Saint, viens des quatre vents et souffle sur ces morts afin qu'ils revivent. Ézéchiel fera un acte insensé. Il va prophétiser sur des ossements, dans cette vision qu'il a, complètement secs. Que des os dans le désert. Je regardais une émission sur les archéologues qui grattent la terre et puis qui déterrent avec précaution un os, etc. Et on se dit, c'est fabuleux, c'est un métier que j'aurais aimé faire. Découvrir des ossements, l'histoire, etc. Des villes. Eh bien, Ézéchiel, en voyant ses os dans la vallée, prophétise comme le dit le Seigneur, et il invite l'Esprit à venir dans ses corps sans vie, et il est dit au verset 10, « Quand l'Esprit entre en eux, ils reprennent vie et se lèvent comme une armée nombreuse et très nombreuse. » Cette année, est-ce que nous pouvons avoir des souhaits meilleurs que ceci? C'est que le Saint-Esprit vienne dans nos vies et nous rende vivants. Et nous rendent libres, et nous affranchissent de toutes les chaînes, de tout ce qui nous contraint et nous empêche d'être en pleine liberté. Est-ce que nous pouvons faire cette liberté déjà pour nous? Esprit Saint, viens. C'est pas des vœux, j'ai envie de dire, comme on l'en fait en début d'année. Vous savez, maintenant, moi j'ai fabriqué au travail, j'ai passé un petit contrat avec une artiste peintre que j'aime beaucoup, Elle avait fait un tableau que j'ai vu dans une expo et j'ai dit, mais est-ce que je pourrais acheter les droits de ce tableau pour mes vœux de fin d'année? Et en fait, ce tableau représente le jour et la nuit. Il y a une échelle comme ça qui se dresse dans le ciel, à la fois dans le jour et dans la nuit. Et moi, ça m'a fait penser tout de suite à l'échelle de Jacob. Vous savez, ce lien entre la terre et le ciel. Alors, j'ai acheté cette carte virtuelle, j'ai créé une carte virtuelle. Et maintenant, c'est très pratique parce que j'ai environ 15 à 20 vœux par jour au niveau professionnel. Et donc, envoyer une carte à chaque fois, c'est... Mais alors, il y a un truc génial, j'ai fait une carte virtuelle. J'ai plus qu'à cliquer sur un bouton et hop, j'envoie mes vœux. Ouais. Est-ce qu'on fait des vœux comme cela avec le Seigneur en ce début d'année? On fait une carte virtuelle? Merci Seigneur pour ce que tu vas vers cette année. Merci pour ta volonté. Merci pour tes plans. Clic, entrée, c'est parti. Ou bien est-ce que nous pouvons faire un vœu qui soit véritablement ancré dans la pensée de Dieu pour nous, pour l'Église et pour ce monde? Est-ce que nous pouvons faire le vœu que l'Esprit Saint vienne, qu'il rentre en nous, en eux, et qu'il reprenne vie? Frères et sœurs, si nous faisons cette prière, si nous invitons l'Esprit, de manière très concrète, je vous invite, maintenant, chez vous, à vous placer dans le Seigneur et à dire, Esprit Saint, je t'invite dans ma vie, viens et rends vivant ce qui est mort. Dans ce texte de Ézéchiel, l'invitation est faite à l'Esprit de dire « Viens des quatre vents ». Viens des quatre vents. Dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 4, verset 16, ces quatre vents, il y en a au moins deux qui sont cités, c'est la bien-aimée qui dit « Lève-toi, Aquilon, viens au temps, souffle sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent. Que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. » J'aime beaucoup le Cantique des Cantiques quand on sait le lire. Et moi, je suis un amoureux de la poésie. Je lis de la poésie tous les jours. Et quand on est amoureux de la poésie, le Cantique des Cantiques, c'est bien le Shir HaShirim, le plus beau de tous les cantiques. Quand on rentre dans ce chant, c'est un chant d'amour. Non seulement d'un homme vis-à-vis d'une femme et d'une femme vis-à-vis d'un homme, mais d'un Dieu et d'un Seigneur vis-à-vis de son peuple. Quand on lit le Cantique des Cantiques et on le lit comme un chant d'amour de Dieu pour l'Église que nous sommes, comme c'est un chant d'amour pour Israël, alors on est émerveillé. Alors il faut dépasser certaines conventions poétiques qui peuvent être un petit peu difficiles à entendre. Je disais souvent à ma femme, si je disais à ma femme, ton nez est comme une tour, je doute qu'elle le prenne bien. C'est pourtant dans le Cantique des Cantiques. Mais quand on s'en perçoit l'amour de Dieu au travers de cet écrit, eh bien là, il a bien aimé dit, lève-toi Aquilon, viens au temps, c'est-à-dire deux des quatre vents, soufflez sur mon jardin, viens souffler sur ma vie, Seigneur, Esprit Saint, viens souffler sur ma vie, que les parfums s'en exhalent. Ah, est-ce que je peux exhaler le parfum de Dieu, le parfum d'une vie qui lui appartient, pour que ceux qui sont à côté disent « Oh, dis donc, tu sens bon ?» Ça, c'est les enfants qui disent souvent ça. Quand ma femme met son parfum, elle a un parfum qu'elle mettait, qu'on ne trouve plus maintenant, mais quand elle le mettait, moi, je sentais son parfum. Elle le mettait depuis le début où je la connaissais. Et même au collège biblique, quand on était 170 élèves, quand elle passait, je dis, oh là, elle n'est pas loin. C'était son parfum, sa marque, sa signature. Est-ce que nous avons cette signature spirituelle lorsque nous passons dans l'Église? Oh là, c'est le parfum de Dieu dans cette vie-là. Oh là, c'est quelque chose qui exhale une bonne odeur. Est-ce que dans le monde, lorsque nous passons, le monde dit, ouh là, c'est pas comme d'habitude, il y a quelque chose. Hier, j'étais en ville, j'étais à Décathlon. Et à Décathlon, je rentre et il y a une petite cabane, vous savez, qui vend des, comment ça s'appelle, des chichis, c'est ça? ces petits trucs sucrés, beignets, etc. Et au moment où je rentre, je n'avais pas mangé, je sens un parfum de chichi. J'ai dû tout faire pour résister, me dire, tu prends le sport ou tu prends les chichis? Les chichis ou le sport? J'ai choisi le sport. Mais ça a été dur. Est-ce que nous exhalons ce parfum-là dans le monde? Au point que ceux qui nous croient se disent, oh là, il y a une odeur, un parfum qui est différent de cette odeur de mort qui existe dans ce monde. Vient des 4 ans. Vous rappelez cet épisode d'Élie qui est découragé et qui doit un petit peu chercher du réconfort auprès de Dieu. Et il y a du vent qui passe, un vent puissant. Mais ce n'est pas dans ce vent puissant que Dieu se trouve, c'est dans une brise légère. Alléluia. J'aime ce sentiment que Dieu souffle et veut souffler sur nos vies. Alors, Esprit Saint, dit Ézéchiel, vient des 4 vents. Je me suis posé la question, c'est quoi ces 4 vents? Et dans la Bible, ils ont un nom, comme nous en avons, nous, dans notre langue. Et en fait, le premier des vents, c'est le vent du Nord. Ah, le vent du Nord, ou l'Aquilon. C'est ce que dit la bien-aimée, « Lève-toi, Aquilon ». Viens, autant, c'est un deuxième vent. Ça, ça ne va pas être facile en anglais. Si, ça se traduit. Aquilon et autant. Tu fais comme moi, tu mets un accent anglais sur un mot, c'est ça? Ça me rassure. Aquilon, autant. Viens et souffle sur mon jardin. L'Aquilon, c'est le vent du nord. En hébreu, c'est tsophon. Et tsophon vient d'une racine hébraïque, sapho, qui veut dire ce qui est caché, ce qui est mis en réserve, un trésor caché. C'est-à-dire que l'Aquilon, ce qui vient du nord, eh bien, c'est ce qui vient et qui est là pour révéler ce qui est caché. Le vent du nord vient pour révéler ce qui est caché, ce qui est mis en réserve. Je regardais, dit Ézéchiel, au chapitre 1, verset 4, et voici, il vint du septentrion, c'est-à-dire un vent d'Aquilon, un vent impétueux, une grosse nuée, une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Le vent du nord est un vent qui vient révéler ce qui est caché, un vent impétueux. Frères et sœurs, est-ce que ce vent que nous invitons dans notre vie, ce vent d'Aquilon, ce vent du nord, n'est-il pas un vent qui vient nous révéler ce qui est précieux, caché dans le cœur de Dieu, et que Dieu veut nous révéler? Cette année, je vous souhaite des révélations de Dieu dans votre vie, des choses cachées que vous ne voyez pas encore, que je ne vois pas encore, mais que Dieu a à cœur de nous révéler. Il veut faire souffler son Aquilon sur nos vies, ce vent sur nos existences, afin que ce qui est caché viennent à la lumière. Alléluia! Je regardais un vent impétueux, une grosse nuée, une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante. Ce monde est loin d'être dans la lumière. Ce monde est loin de pouvoir nous apporter ce qu'attendent nos cœurs, nos vies et même les nations. Un président nord-coréen disait au monde entier, méfiez-vous, j'ai un bouton sur mon bureau qui peut déclencher la guerre nucléaire. Et le président d'un autre pays, dont la devise est le dollar, et qui a sur ce dollar, in God we trust, en Dieu nous croyons, a répondu ceci de très spirituel, moi, j'ai un plus gros bouton que le tien sur mon bureau. On se dit, quelle est la sagesse de Dieu dans ce monde? Est-ce qu'il y a de la sagesse ou de la folie? Est-ce qu'il y a des ténèbres ou est-ce qu'il y a de la lumière? Et là, le vent du nord est un vent qui vient pour, de manière puissante, changer, modifier, révéler Rappelez-vous Saül de Tarse qui tombe de son cheval sur le chemin de Damas. C'est un vent de l'esprit qui l'a saisi et qui a changé totalement ce qu'il était, ce qu'il vivait. Et ce persécuteur de chrétiens, cet homme qui mettait des hommes, des femmes et des enfants en prison, est devenu un des piliers de l'Église. Est-ce que ce n'est pas ce vent de l'esprit que nous voulons dans nos existences ? Est-ce que ce n'est pas ce vent de l'esprit qui peut changer les choses que nous aspirons à rencontrer, à voir souffler dans nos vies, dans l'Église, dans le monde ? Il y a d'autres vents de l'adversaire qui soufflent. Qu'est-ce que nous désirons ? Il dira aussi que ce vent était semblable à une nuée. Une nuée, une grosse nuée. C'est quoi cette nuée ? C'est la présence sensible de l'Esprit-Saint, la Shekinah. Cette Shekinah qui était manifestée pour Israël en vue de le conduire et de l'instruire par cette présence permanente de Dieu. Est-ce que l'Esprit-Saint va nous conduire véritablement dans cette année 2018, dans nos vies personnelles, dans tout ce qui est la vérité ? Il vous conduira, disait Jésus en parlant de l'Esprit-Saint, du Consolateur. Il vous conduira dans toute la vérité. Je dois avouer que je lis très peu de livres de témoignages chrétiens. Ce n'est pas quelque chose qui m'attire particulièrement. J'en lis quelques-uns, mais je ne suis pas très attiré. Par contre, j'aime beaucoup et je suis très friand de tous ces hommes qui ont étudié l'Écriture et qui nous l'ouvrent, qui nous donnent la capacité de voir ce qu'il y a dans l'Écriture. Et ce que j'admire souvent chez ces hommes, c'est comment le Saint-Esprit, je relisais encore hier un cahier évangile qui était consacré à la vie de Joseph, au récit de Joseph dans la Genèse, et j'étais émerveillé de voir comment des hommes placés devant l'Écriture se sont laissés conduire par l'Esprit-Saint pour ouvrir sa parole. Et ça, ça me parle. J'aime voir, sentir, percevoir le Saint-Esprit qui ouvre l'Écriture. Est-ce que nous pouvons dire, là aussi, soit cette nuée qui m'ouvre la parole et qui me conduit dans la vérité ? Je préfère cela, de beaucoup, au témoignage des autres, vous savez, qui ont vécu ceci. Parce que souvent, on en fait des modèles. Vous savez, vous connaissez ce récit, cette parole, je ne sais plus si c'est de là ou de ceux, qui disait « Quand un sage montre la lune, le sot regarde le doigt. Hein ? » Quand un sage montre la lune, le sot regarde le doigt. Parfois, dans les livres de témoignages, j'ai l'impression que quand celui qui donne son témoignage veut montrer Christ, on finit par regarder celui qui témoigne, et non pas le Christ. Mais est-ce que l'Esprit-Saint peut être un Esprit-Saint qui nous ouvre la parole directement, moi face à Dieu ? Une gerbe de feu, dit Ézéchiel, ce vent est semblable à une gerbe de feu. Une gerbe qui sanctifie, qui purifie. Dans le livre de l'Exode, il est dit que la montagne du Sinaï, au chapitre 19, verset 18, était toute enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Est-ce que nous pouvons être le siège dans nos vies de la nuée de Dieu ? Vous êtes le temple et moi aussi. Et si je suis le temple du Saint-Esprit, alors cet Esprit-là est présent dans ma vie pour brûler. Non seulement brûler ce qui est impur, mais aussi révéler la sainteté de Dieu, manifester la sainteté de Dieu dans ma vie. C'est le roi Nebuchadnezzar qui faisait cette expérience de la sainteté de Dieu, du feu de Dieu, de l'Esprit-Saint, quand il a été effrayé après avoir, un petit peu poussé par ses conseillers, jeté dans la fournaise Daniel avec ses compagnons. Et il dit, n'avons-nous pas jeté au... Non, ce n'est pas Daniel, c'est ses compagnons. Shadrach, Meshach et Abednego. Hein ? Donc Shadrach, Meshach, jeté dans la fournaise. Et il se penche dans la fournaise, et il dit, mais est-ce qu'on n'a pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ? Et les conseillers lui disent, mais bien sûr, on les a jetés. Bah, moi, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont pas mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Waouh ! Être confronté à ce feu, mais qui ne consume pas, qui ne détruit pas, mais qui révèle la nature, la sainteté de Dieu et la sainteté dans laquelle nous sommes appelés à vivre. Est-ce que nous voulons que ce vent-là souffle, frères et sœurs, dans nos vies ? Et puis, il est dit que c'était une lumière éclatante, ce vent de l'Aquilon, une lumière éclatante. Pendant que vous avez la lumière, dit Jésus, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Alors, j'aime beaucoup ce verset de Jean 12, 36. Jésus dit ceci, et qu'est-ce qu'il fait après ? Il se lève et il se cache loin d'eux. Bah, attends, Seigneur, tu t'en vas pas. C'est toi là. Non, c'est vous qui êtes lumière. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière. Devenez-vous des enfants de lumière. Seigneur, bouge pas, reste là. Me quitte pas. Tu es appelé, je suis appelé à ce que le vent de l'esprit soufflant sur ta vie fasse de toi, fasse de moi un enfant de lumière en cette année 2018. Le vent d'Est, il est en hébreu, ce vent d'Est vient d'une racine Kadam qui dit « venir au devant, venir ou être en face, confronté, aller au devant ». Ce vent d'Est, c'est celui qui vient au devant. Tout simplement parce que c'est là que se lève le soleil. Donc le vent d'Est, c'est Dieu qui vient au devant. Et le Seigneur, Jésus, est souvent associé à l'Orient, parce que c'est là que le soleil se lève. Vous savez que dans l'évangile de Luc, il est écrit « Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. » Est-ce que vous voulez cette année que le soleil levant, ce vent d'Est, puisse souffler sur votre vie ? Un vent de révélation. Un vent qui montre qui est Dieu, qui se révèle et qui vient devant de nous. Vous savez, je crois que ce qui est vrai pour le Fils l'est pour l'Esprit. Le Fils est venu au-devant de nous. Personne ne peut dire, c'est moi qui suis allé le chercher. Il est venu au-devant de nous. Et je crois que l'Esprit Saint vient au-devant de nous, lui aussi. Sommes-nous prêts à l'accueillir pour qu'il soit celui qui nous révèle ? La porte du sanctuaire de Dieu était tournée vers l'Est. Mauvais architecte. Tout le monde sait que quand on construit sa maison, on la met face au sud, non ? Pour avoir le plus de lumière. Non, là, le tabernacle, le temple, la porte d'entrée était vers l'est, parce que c'est là que se lève le soleil de Dieu. Alléluia ! Dans l'Apocalypse, Jésus dit, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. » Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'étoile, est-ce que nous souhaitons cette année ? Et je prie pour que ce soit le cas, que je puisse dans ma vie dire, cette année Seigneur, soit cette étoile qui se lève, ce vent de l'Est qui souffle sur ma vie et qui vient au-devant de moi pour te révéler. Nous avons encore besoin de connaître Jésus. Nous avons, qui peut dire, ça y est, je l'ai totalement rencontré. Personne. Cette année, Seigneur, que ce vent de l'Est soit un vent de révélation pour moi, pour découvrir ta grâce, te voir, te connaître d'une façon tout à fait nouvelle. Dans Ézéchiel, cette notion de l'Est est intéressante parce que dans le chapitre 47, vous avez ce récit du temple et de l'eau qui sort sous le seuil de la maison à l'est, à l'Orient. Moi, j'aime bien dire à l'est ou à l'Orient. Ça nous concerne davantage. Un conseil national avec des frères je disais, vous savez, nous, on est quand même la seule église apostolique qui est citée dans l'église, dans la Bible. Hein. Nous, on est cité à l'Orient, se lèvera la gloire de Dieu. Hein, alors que Hermon, non, c'est pas. Ah si, Hermon est cité. Fausse. Il y a aussi Hermon hein, qui est cité dans l'Écriture. Mais Lillebonne, pas. Paris non plus, etc. Et puis, il y avait un pasteur qui était là, un vieux pasteur à l'époque, qui venait d'Inde, et il disait, ah mais non, nous, il est parlé de notre pays, l'Inde, ces contrées de l'Inde, etc. Alors, je dis, oui, donc, il y a l'Orient et l'Inde, à la rigueur Hermon. Mais, à l'Est, à l'Orient, l'eau s'écoule, il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'Orient. Et vous savez, c'est ce récit qui dit que l'eau montait et que le prophète, à un moment donné, avait de l'eau jusqu'aux chevilles. Et les chevilles, c'est quoi? C'est le support de notre corps, ce qui me fait tenir sur le sol. Est-ce que ce qui vient de l'Est, cette eau qui vient, est-ce que je suis prêt à ce qu'elle baigne mes chevilles, mes appuis, et que je ne sois pas sur une stabilité forcément humaine, mais que je laisse le fondement de ma vie reposer en Christ? Une marche avec Jésus qui permet de marcher différemment. Est-ce que cette année, je fais le choix de marcher différemment dans ma vie, au quotidien? Et puis de l'eau jusqu'aux genoux. Aux genoux, il y a encore cette dimension du vent d'Orient. C'est l'eau qui vient aux genoux. Ah, qu'est-ce que c'est difficile pour un peuple qui veut rester debout d'être à genoux. Il va nous falloir plier les genoux devant le roi de gloire encore cette année. Ouais. Je prie pour que cette année 2018 soit une année où nous puissions ployer les genoux. De l'eau jusqu'au rein. Le rein, c'est le siège de la force personnelle. Ah, moi, on a partagé avec la réunion de prière cette semaine. Moi, s'il y a une chose qui m'est difficile, c'est de ne pas m'appuyer sur mes forces personnelles, de renoncer, d'aller vers lui d'abord avant d'user toutes mes cartouches humaines dans toutes les épreuves que j'ai à affronter, les difficultés, accepter de faire que ma force soit en lui. Dans le psaume 51, verset 6, il est dit « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Waouh! Est-ce que j'ose faire cette prière-là aujourd'hui? Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Cet Esprit Saint qui vient de l'Orient et qui me dit « Ta force n'est pas en toi. Elle est en Christ. » Le vent du Sud. Alors le vent du Sud, c'est l'OTAN. En hébreu, c'est Teman, c'est le vent qui vient de la droite, Yamin, la main droite. Alors, pourquoi le vent de droite, vous me direz? Bah, tout simplement, c'est le vent qui est à droite si vous regardez l'Orient. Si vous regardez l'Est, à droite, vous avez l'OTAN. C'est en hébreu la manière de désigner la droite. Ah, la droite, c'est donc la main droite, ce qui est précieux. Dans le Cantique des Cantiques, quand la bien-aimée dit « Viens OTAN, souffle sur mon jardin », elle parle de l'autorité. Ce qui est à la main droite, c'est ce qui est synonyme d'autorité. Et ce vent qui souffle d'OTAN, du Sud, c'est le vent de l'autorité. Quelle est l'autorité qui domine sur ma vie aujourd'hui? Est-ce que c'est cette autorité qui vient de Dieu? Est-ce que l'Esprit Saint qui souffle me révèle l'autorité de Dieu dans ma vie? Est-ce qu'il souffle vraiment? Alors, à autorité, on pourrait joindre aussi la notion d'obéissance. Parce que pour être obéissant, il faut reconnaître l'autorité. Hein, c'est mon autorité. À la rigueur, je le dis parce qu'elle n'est pas là, l'autorité de ma femme. Non, quand ce vent la souffle, j'obéis. Là, il n'y a pas Jean-Louis qui fait « Amen ». Ben alors, quel est le vent qui souffle? Quelle est l'autorité? Quel est ce vent de droite Ce vent qui souffle pour dire « l'autorité est en Christ » et je le reconnais. Il n'est pas simplement mon sauveur, il est aussi celui que j'accepte comme mon Seigneur. Et être Seigneur, c'est lui reconnaître cette autorité dans mon existence. Est-ce que cette année sera une année où je dirai que ce vent du Sud, ce vent d'autorité, et j'aime savoir que pour que ce vent d'autorité, cet autant souffle dans ma vie, il faut que je regarde le vent qui vient de l'Orient. C'est-à-dire qu'il faut que je regarde Christ. Alléluia ! Il n'y a pas d'autorité acceptable et supportable si elle ne se trouve pas dans une relation avec Christ. Alléluia ! Le vent d'Occident ou le vent d'Ouest, en hébreu, ça vient, ça se dit yam, et c'est un vent qui... Yam, c'est le verbe qui dit rugir. Un vent d'ouest, c'est un vent qui rugit, en hébreu. Parfois, quand on regarde le vent sur les côtes bretonnes, et qu'on les voit s'éclater, éclater les vagues sur les digues et sur les rochers, on se dit, ça rugit fort aujourd'hui. Eh bien, c'est ce vent qui rugit et qui parle là aussi de la puissance de Dieu. Est-ce que je souhaite que la puissance de Dieu se manifeste dans ma vie. Amos disait, de Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix. De Sion l'Éternel rugit. Il ne miaule pas. Et parfois, quand on regarde l'Église au milieu du monde, on a l'impression d'un petit chaton qui miaule. Or Dieu dit, voilà je suis le lion de Juda. Et je rugis parce que la puissance est en moi. Et elle veut être aussi en toi et dans ta vie aujourd'hui. Est-ce que tu veux que ce vent de l'Ouest qui rugit et qui manifeste la puissance de Dieu soit présent dans ta vie? Je voudrais terminer avec cette pensée. Le lion rugit après sa proie. Nous rugissons car nous sommes vainqueurs par lui. Nous sommes à la veille de la plus grande moisson que notre pays, que ce monde puisse espérer, attendre ou connaître. Ce que nous avons connu dans la vie de l'Église n'est rien en comparaison de ce qui va advenir. Ferons-nous partie de ce peuple qui laisse souffler le Saint-Esprit, ce vent puissant qui vient de l'Ouest et qui rugit et qui manifeste la puissance et l'autorité de Dieu? Est-ce que nous laisserons ce vent-là? Ainsi parle l'Éternel, Esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'ils revivent. L'Esprit entra en eux, ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Dans cette armée très nombreuse, nous sommes appelés à en faire partie si l'Esprit souffle des quatre vents sur notre vie. Merci Seigneur. Parce que ta parole est vivante, parce que tes promesses sont réelles et que nous croyons que tes plans vont se réaliser. Donne-nous qu'ils se réalisent dans notre vie et que nous soyons participants à ce que tu veux. Que nous laissions tes plans s'accomplir dans notre vie. Garde-nous d'avoir de fausses excuses. Des paroles qui nous gardent immobiles. Donne-nous par la foi de laisser l'Esprit souffler sur nos existences des quatre points de l'horizon. Accomplis ton œuvre en moi, en nous, dans ton Église. Afin que là, ta volonté s'accomplisse et que ton Église soit véritablement une lumière brillante, un soleil levant pour ce monde dans les ténèbres. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen.